Bien sûr, pendant cette expédition dans l'ouest du pays, Malia et Sacha ont dû régulièrement supporter de voir leur père leur fausser compagnie un jour sur deux pour parler de son projet de réforme lors de grands rassemblements ou devant les caméras de télévision. Les débats publics en eux-mêmes n'étaient pas très différents de ceux auxquels j'avais participé durant le printemps. Les gens venaient livrer leurs témoignages personnels, raconter la façon dont le système actuel avait nui à leur famille et poser des questions sur les changements qu'allait entraîner pour eux la future loi. Même ceux qui étaient opposés au projet écoutaient attentivement ce que j'avais à leur dire. Dans le reste du pays, cependant, l'atmosphère était très différente. Nous étions en plein milieu de ce qu'on appellerait par la suite l'été du Tea Party, un mouvement orchestré par la droite la plus conservatrice pour récupérer à son avantage les appréhensions sincères qu'inspiraient aux gens les changements à l'œuvre en Amérique. Chaque fois que nous arrivions quelque part et chaque fois que nous repartions, nous étions cernés par des dizaines de manifestants en colère. Certains criaient dans des porte-voix, d'autres nous tendaient le majeur. Ils tenaient souvent à la main des pancartes où l'on pouvait lire des slogans comme « À bas l'Obamacare » ou l'ironique malgré lui « Dehors le gouvernement, pas touche à mon Medicare ». Certains agitaient des portraits de moi retouchés sur lesquels j'apparaissais sous les traits du Joker, incarné par Heath Ledger dans The Dark Knight, les yeux cerclés de noir et le visage lourdement grimé, affichant un air presque démoniaque. D'autres, enfin, avaient revêtu des costumes de l'époque coloniale et brandissaient le drapeau des révolutionnaires anticolonialistes, arborant le slogan « Ne me piétinez pas ». Ce qui semblait intéresser ces gens par-dessus tout, c'était de clamer haut et fort le mépris que je leur inspirais de manière générale. Sentiment que résumait mieux qu'aucune autre image le détournement de la célèbre affiche de Shepard Fairey utilisée pendant la campagne. Le même portrait de moi, en rouge, blanc et bleu, mais sous lequel le mot « hope », espoir, avait été remplacé par « nope », non. Ce mouvement inédit et puissant dans la vie politique américaine avait été initié quelques mois plus tôt par un petit groupe hétéroclite de détracteurs du TARP et du Recovery Act. Un certain nombre de ses tout premiers militants sortaient apparemment des rangs de la chimérique campagne présidentielle libertarienne menée par le député républicain Ron Paul, qui appelait de ses vœux la suppression de l'impôt fédéral sur le revenu et de la réserve fédérale, le retour à l'étalon or, et le retrait des États-Unis de l'ONU et de l'OTAN. La diatribe de Rick Santelli à la télévision contre notre proposition sur le financement immobilier, qui avait fait grand bruit au mois de février, avait sonné le cri de ralliement pour ce réseau informel de militants conservateurs, et des rassemblements de plus en plus importants n'avaient pas tardé à voir le jour, organisés par le biais de sites internet ou de chaînes d'e-mail, des antennes du Tea Party proliférant un peu partout dans le pays. Au cours de ces premiers mois, ce mouvement encore balbutiant n'avait pas eu les moyens de faire barrage au vote de notre plan de relance économique, et la grande manifestation nationale à laquelle il avait appelé au mois d'avril, le jour de la date limite de la déclaration d'impôt, avait fait long feu. Mais grâce au soutien de certaines personnalités médiatiques telles que Rush Limbaugh ou encore l'éditorialiste conservateur Glenn Beck, il avait rapidement pris de l'ampleur, au point d'accéder à la reconnaissance officielle dans les rangs du Parti républicain, au niveau local puis national. À l'été 2009, le Tea Party était désormais tout entier mobilisé contre cette abomination qu'ils appelaient l'Obamacare, qui allait, selon eux, entraîner l'instauration d'un nouvel ordre socialiste et répressif en Amérique. Tandis que je poursuivais ma tournée de débats publics dans l'ouest du pays, relativement sobre en comparaison, les chaînes de télé ont commencé à diffuser des images de rassemblements organisés en parallèle dans diverses régions, où l'on voyait des membres du Sénat et de la Chambre des représentants soudain pris à partie dans leur circonscription par des foules hargneuses, ou des militants du Tea Party interrompant délibérément les débats et interpellant les élus avec une telle virulence que ces derniers en venaient parfois à annuler leurs interventions publiques. Je ne savais pas trop quoi penser de ce mouvement. Le manifeste anti-impôt, anti-régulation et anti-gouvernement du Tea Party était loin d'être une nouveauté. Les républicains et les médias conservateurs serinaient depuis longtemps le même discours, dénonçant les élites de gauche corrompues qui avaient piraté les institutions du gouvernement fédéral pour siphonner l'argent des honnêtes travailleurs américains afin de financer un État-providence clientéliste et arroser leurs petits copains du monde des affaires. En outre, le Tea Party n'était pas l'émanation spontanée du peuple pour lequel il voulait se faire passer. Dès le départ, certains groupes d'intérêt affiliés aux frères Koch, comme Americans for Prosperity, ainsi que d'autres milliardaires conservateurs qui avaient participé au rassemblement d'Indian Wells organisé par les Koch au lendemain de ma prestation de serment, avaient soigneusement orchestré l'éclosion de ce mouvement en déposant des noms de domaines sur Internet, en obtenant des permis de manifestation, en formant des organisateurs, en montant sur pied des conférences sponsorisées et, de manière générale, en fournissant au Tea Party l'essentiel de ses ressources financières, de son infrastructure et de sa direction stratégique. Il n'en reste pas moins que le Tea Party témoignait indéniablement de la percée d'une authentique mouvance populiste au sein du Parti républicain, composé de gens convaincus et animés du même enthousiasme citoyen, de la même fureur brouillonne que nous avions observée chez les partisans de Sarah Palin dans les derniers jours de la campagne. Je comprenais en partie leur colère, même si je pensais qu'ils se trompaient de cible. De nombreux Américains blancs, issus des classes moyennes ou populaires qui gravitaient autour du Tea Party, souffraient depuis des décennies de la stagnation des salaires, du coût de la vie toujours plus élevé et de la raréfaction des emplois qualifiés qui leur permettaient d'accéder à une retraite décente. Bush et l'establishment républicain n'avaient rien fait pour eux, et la crise financière avait un peu plus encore fragilisé cette partie de la population. Et, du moins jusqu'à présent, l'économie avait continué de se détériorer sous ma gouverne, en dépit des 1 000 milliards de dollars injectés dans le plan de relance et les opérations de renflouement. Pour ceux dont les opinions penchaient déjà côté conservateur, l'idée selon laquelle les mesures politiques que je mettais en œuvre étaient destinées à bénéficier aux autres à leur détriment, que les dés étaient pipés et que c'était moi qui les lançais, devait paraître tout à fait plausible. J'éprouvais par ailleurs un certain respect, bien malgré moi, pour la vitesse à laquelle les dirigeants du Tea Party avaient réussi à mobiliser leurs troupes et à occuper le haut du pavé dans les médias, en utilisant les mêmes réseaux de proximité et les mêmes stratégies de communication que nous durant ma propre campagne. Depuis les tout débuts de ma carrière politique, je n'avais eu de cesse d'exalter les vertus de la participation civique, en laquelle je voyais un remède contre les maux qui gangrenaient notre démocratie. Je n'étais guère en mesure de me plaindre, me disais-je, au prétexte que c'était les opposants à mon projet politique qui suscitaient à présent cet engagement citoyen passionné. Assez vite, cependant, il est devenu difficile de fermer les yeux sur les impulsions plus troubles qui animaient ce mouvement. Comme à l'époque des meetings de Sarah Palin, les journalistes couvrant les rassemblements du Tea Party tombaient souvent sur des militants qui me comparaient à tel ou tel animal ou à Hitler. On voyait jaillir des pancartes sur lesquelles j'apparaissais sous les traits d'un médecin sorcier africain, un os fiché en travers des narines, avec une légende du style « Obamacare, bientôt dans une clinique près de chez vous ». Les théories du complot faisaient florès. Mon projet de loi allait instaurer des jurys de la mort, des commissions chargées de se prononcer sur la pertinence des soins médicaux à administrer aux patients en fonction de leur état de santé, ouvrant la voie à une euthanasie d'État. Ou encore, ils bénéficieraient aux étrangers sans papier afin de servir mon objectif ultime, inonder le pays d'électeurs assistés par l'État-providence et acquis à la cause démocrate. Le Tea Party a aussi ravivé le feu, et rajouté par-dessus un peu d'huile, d'une vieille rumeur lancée pendant la campagne présidentielle. Non seulement j'étais musulman, mais j'étais né au Kenya en réalité, et donc d'un point de vue constitutionnel, mon élection était nulle et non avenue. En septembre, la question de savoir dans quelle mesure le nativisme et le racisme pouvaient expliquer la montée en puissance du Tea Party était au centre de tous les débats dans les émissions politiques, surtout après que l'ancien président Jimmy Carter, grande figure du Sud des États-Unis, eut déclaré que, selon lui, la campagne au vitriol menée contre moi était fondée, du moins en partie, sur une vision du monde raciste. À la Maison-Blanche, nous prenions soin de ne surtout pas exprimer de commentaires sur ce phénomène, et pas uniquement parce que les sondages dont disposait Axe nous indiquaient que les électeurs blancs, y compris parmi mes partisans, étaient peu réceptifs au discours sur la question raciale. Je tenais pour principe qu'un président ne devait jamais se plaindre publiquement des critiques adressées par les électeurs. Ça fait partie du job pour lequel vous avez signé. Et je ne manquais jamais une occasion de rappeler à la presse, aussi bien qu'à mes proches, que mes prédécesseurs blancs avaient eux aussi été victimes de violentes attaques personnelles et de tentatives d'obstruction. D'un point de vue plus concret, je ne voyais pas bien comment faire la part des choses entre les diverses motivations à l'œuvre dans cette campagne de dénigrement, d'autant que la question raciale était inextricablement mêlée à chacun des aspects de l'histoire de notre nation. Tel adhérent du Tea Party soutenait-il le droit des États parce qu'il pensait sincèrement que c'était la meilleure façon de promouvoir la liberté, ou parce qu'il ne pardonnait toujours pas à l'État fédéral d'avoir aboli les lois Jim Crow, mis un terme à la ségrégation et permis l'émergence d'un pouvoir politique noir dans le Sud? Telle militante conservatrice s'opposait-elle à l'extension du régime de protection sociale parce qu'elle pensait que c'était un frein à l'initiative personnelle ou parce qu'elle était persuadée qu'une telle mesure ne bénéficierait qu'aux migrants latinos qui venaient tout juste de franchir la frontière? Quoi que me souffle mon instinct, quelles que soient les vérités exposées dans les livres d'histoire, je savais pertinemment que je ne rallierais aucun électeur à mon point de vue en accusant mes adversaires de racisme. Une chose semblait certaine. Une bonne partie du peuple américain, y compris ceux-là même à qui je voulais venir en aide, ne croyaient pas un mot de ce que je disais. Un soir, à peu près à cette période, je suis tombé sur un reportage à la télévision sur une organisation caritative appelée Remote Area Medical, soins médicaux pour les zones isolées, qui parcourait le pays à bord de camionnettes pour installer des dispensaires éphémères devant les stades et dans les parcs. Presque tous les patients qu'on voyait dans le reportage étaient des Blancs originaires d'États du Sud, le Tennessee, la Géorgie, la Virginie occidentale, des hommes et des femmes qui avaient un emploi mais pas d'assurance fournie par leur employeur, ou qui étaient assurés mais n'avaient pas les moyens de payer leurs cotisations. Nombre d'entre eux avaient fait des centaines de kilomètres, certains avaient même dormi dans leur véhicule en laissant tourner le moteur afin de rester au chaud, pour se joindre aux centaines d'autres personnes déjà sur place qui faisaient la queue depuis l'aube pour consulter l'un des médecins bénévoles, les uns pour une rage de dents, les autres pour des douleurs abdominales ou une boule suspecte à la poitrine. La demande était si importante que les patients qui arrivaient après le lever du jour ne pouvaient souvent pas être reçus. Je trouvais cette scène à la fois déchirante et exaspérante. C'était l'illustration coupable de l'incapacité d'une nation riche à servir dignement ses citoyens. Et cependant, je savais que presque tous ces gens venus pour une consultation médicale gratuite étaient issus d'un bastion républicain conservateur, le genre d'endroit où l'opposition à notre projet de réforme et la popularité du Tea Party étaient sans doute plus fortes que n'importe où ailleurs. À une époque, quand j'étais encore sénateur et que j'écumais les routes de l'Illinois ou de l'Iowa rural au tout début de la campagne présidentielle, j'aurais pu toucher ces électeurs. Je n'étais pas encore assez connu alors pour être la cible de caricatures, et j'aurais pu aisément, par une simple conversation, un petit geste de sympathie, tordre le cou aux préjugés qu'ils auraient pu nourrir à l'égard d'un noir de Chicago affublé d'un nom étranger. Je me serais attablé avec eux dans un diner pour discuter, où j'aurais écouté leurs doléances lors d'une foire locale, et à défaut peut-être d'obtenir leur voix ou de les convaincre sur l'essentiel des questions, j'aurais pu au moins établir un lien avec eux, et ces quelques instants partagés nous auraient fait comprendre, à eux comme à moi, que nous avions des espoirs, des combats et des valeurs en commun. Je me demandais si une telle chose aurait été encore possible, maintenant que je vivais derrière des portes closes et bien gardées, mon image filtrée par Fox News et d'autres médias similaires qui avaient fait leur fond de commerce de la peur et de la colère de leur public. J'avais envie de croire que cette possibilité d'établir un lien existait toujours. Ma femme en était moins sûre. Un soir, vers la fin de notre road trip après le coucher des filles, Michel a vu quelques images d'un rassemblement du Tea Party à la télé. Les drapeaux furieusement brandis, les slogans incendiaires. Elle a aussitôt saisi la télécommande pour éteindre, affichant une expression à mi-chemin entre la colère et la résignation. « C'est quand même sidérant, non ? » a-t-elle dit. « Quoi donc ? Qu'ils aient peur de toi, de nous ?» Elle a secoué la tête, puis elle est allée se coucher. Ted Kennedy est mort le 25 août. Le matin de ses funérailles, un ciel de plomb pesait sur Boston, et quand notre avion a atterri, les rues étaient assombries par d'épais rideaux de pluie. La scène à l'intérieur de l'église était à la hauteur de la vie exceptionnelle de Teddy. Sur les bancs s'alignaient d'anciens présidents et hommes d'État, des sénateurs et des membres du Congrès, des centaines de collaborateurs d'hier et d'aujourd'hui, tous encadrés par la garde d'honneur devant le cercueil drapé de la bannière étoilée. Mais ce sont les anecdotes racontées par sa famille, et notamment par ses enfants, qui ont fait la plus forte impression ce jour-là. Patrick Kennedy se souvenait de son père à son chevet, lorsqu'il était cloué au lit par de terribles crises d'asthme, lui épongeant le front avec un linge humide jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il a évoqué les moments passés avec lui en mer, quand Teddy l'emmenait faire de la voile, même par gros temps. Teddy Junior a rappelé la fois où, après qu'il eut perdu sa jambe à cause du cancer, son père avait insisté pour l'emmener faire de la luge. Il avait grimpé avec lui tout en haut d'une colline enneigée, le relevant chaque fois qu'il tombait et essuyant ses larmes quand il voulait abandonner. Puis ils avaient enfin atteint le sommet et tous deux avaient dévalé la pente. C'était la preuve, a dit Teddy Junior, qu'à ses yeux la terre ne s'était pas arrêtée de tourner. Tous ensemble, les gens qui ont pris la parole ce jour-là ont brossé le portrait d'un homme animé d'appétit et d'ambition féroce, mais également hanté par des deuils terribles et assailli par le doute. Un homme en quête de rachat. Mon père croyait en la rédemption, a dit encore Teddy Junior, et il n'a jamais cédé au défaitisme, jamais cessé d'essayer de réparer les torts, que ce soit les siens ou les nôtres. J'ai emporté ces paroles avec moi en rentrant à Washington, où le défaitisme semblait de plus en plus à l'ordre du jour, du moins pour ce qui était de faire voter un projet de réforme du système de santé. Le Tea Party était parvenu à ses fins, saper nos efforts à coups de messages négatifs et attiser les craintes diffuses au sein de l'opinion publique, en laissant entendre que la réforme serait trop coûteuse, qu'elle susciterait le chaos ou qu'elle ne bénéficierait qu'aux plus pauvres. Selon un rapport préliminaire du Bureau du budget du Congrès, CBO, l'organisme professionnel et indépendant chargé d'estimer le financement de toutes les législations fédérales, la version initiale du projet de loi validé par la Chambre des représentants coûterait la somme ahurissante de 1 000 milliards de dollars. Même si ce chiffre serait par la suite revu à la baisse, pour l'heure, le CBO avait offert à nos adversaires le bâton idéal avec lequel nous matraquer. Les élus démocrates des circonscriptions susceptibles de basculer dans le camp adverse étaient tout à coup affolés, persuadés qu'apporter leur soutien à ce projet de loi équivalait à une mission suicide. Les républicains ont cessé de faire semblant de vouloir négocier et certains membres du Congrès n'hésitaient plus à reprendre en écho les affirmations du Tea Party selon lesquelles mon intention était de promulguer l'euthanasie pour tous. Le seul point positif, c'est que cela m'a aidé à guérir Max Baucus de son obsession, réussir à amadouer Chuck Grassley. Lors d'une ultime tentative de conciliation en présence des deux hommes dans le bureau ovale début septembre, j'ai patiemment écouté Grassley m'exposer 5 nouvelles raisons pour lesquelles nous continuions d'achopper sur la dernière version en date du projet de loi. « J'ai une question pour vous, Chuck », ai-je fini par dire. « Si Max accédait à toutes vos requêtes, est-ce que vous seriez prêt à soutenir le texte ?»« Eh bien, y a-t-il des modifications, quelles qu'elles soient, qui pourraient vous convaincre de nous donner votre voix ?» Un silence gêné, puis Grassley a levé la tête et m'a regardé dans les yeux. « Je ne crois pas, Monsieur le Président. Je ne crois pas. » À la Maison-Blanche, l'ambiance s'est vite assombrie. Certains, au sein de mon équipe, ont commencé à suggérer qu'il était peut-être temps de jeter l'éponge. Rahm, en particulier, affichait une mine austère. Ayant déjà fait le même tour de piste avec Bill Clinton par le passé, il savait trop bien ce que la baisse de ma cote de popularité signifiait pour les démocrates candidats à leur réélection dans les circonscriptions risquant de basculer, des candidats qu'il avait souvent lui-même recrutés et aidés à se faire élire, sans parler de mes propres perspectives en vue de l'élection présidentielle de 2012. Lors d'une réunion de travail stratégique avec les principaux responsables du staff, Rahm a suggéré que nous essayions de négocier avec les républicains pour arriver à faire passer une loi en grande partie rabotée, qui permettrait par exemple d'abaisser le seuil d'accès au régime Medicare de 65 à 60 ans, ou encore de faire bénéficier un plus grand nombre d'enfants du programme CHIP. Vous n'aurez pas eu tout ce que vous vouliez, Monsieur le Président, mais ça aidera quand même beaucoup de gens, et ça nous donnera plus de latitude pour continuer d'avancer sur le reste de vos projets. Certains dans la pièce étaient d'accord, d'autres étaient d'avis qu'il était trop tôt pour baisser les bras. Après nous avoir fait part des conversations qu'il avait eues avec divers membres du Congrès, Phil Schillero nous a dit que selon lui, il restait encore une petite fenêtre de tir pour faire passer le projet de loi dans son intégralité, en s'appuyant uniquement sur les voix démocrates, tout en reconnaissant que c'était loin d'être garanti. Je crois que la question qui se pose est la suivante, Monsieur le Président. Est-ce que vous vous sentez en veine ? Je l'ai regardé et j'ai souri. Où nous trouvons-nous à cet instant précis, Phil ? Il a eu un moment d'hésitation, se demandant si c'était une question piège. Dans le bureau ovale ? Et comment je m'appelle ? Barack Obama. J'ai de nouveau souri. Barack Hussein Obama. Et je me trouve ici, avec vous tous, dans le bureau ovale. Crois-moi, mon frère, je me sens en veine tous les jours. J'ai dit à l'équipe que nous maintenions le cap. Mais en toute honnêteté, ma décision n'avait pas grand-chose à voir avec la question de savoir si la chance me souriait ou non. Rahm n'avait pas tort, les risques étaient élevés, et dans un climat politique différent, sur un sujet différent, peut-être aurais-je accepté l'idée de négocier avec le GOP et de me contenter d'une moitié du gâteau. Mais en l'occurrence, rien ne laissait penser que les républicains seraient disposés à nous tendre la main. Nous étions fragilisés, leur base électorale était déterminée à ne pas faire de quartier, et quand bien même nous aurions revu nos ambitions à la baisse, il était à peu près certain qu'ils auraient trouvé toutes sortes de nouvelles raisons pour ne pas collaborer avec nous. Mais surtout, une loi amputée de ses dispositions essentielles ne serait d'aucun secours pour les millions de gens de ce pays acculés au désespoir, pour les gens comme Laura Klitschka à Green Bay. L'idée de les laisser tomber, de les voir livrés à eux-mêmes parce que leur président n'avait pas eu suffisamment de cran, d'habileté ou d'autorité pour s'élever au-dessus des controverses politiques et faire passer une réforme dont il savait qu'elle était juste, m'était tout bonnement intolérable.